Nous entrons dans notre sujet, vivre pour Christ. Et pour introduire le thème qui nous intéresse ce soir, des pensées pour Christ, nous lirons deux textes, le premier se situant au psaume 139e, des versets 1er à 14, puis nous passerons ensuite au cantique des cantiques. Psaume 139. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous tournons quelques pages pour nous trouver dans le livre des Cantiques, du Cantique des Cantiques au chapitre 4. Nous lisons du verset 12 au verset 16. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon. Viens, autant, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Des pensées pour Christ. Parce que Dieu pense, il a voulu que nous pensions aussi. Et la pensée est l'un des traits de l'image de Dieu reproduite dans l'homme. La pensée est un exercice du cœur et de l'esprit. Et tout ce que nous faisons commence par être pensé, en dehors du geste machinal peut-être, ou du réflexe, qui est une expression brutale de notre instinct de conservation. Tout commence, tout ce que nous faisons ou disons, commence par être pensé. Penser, c'est donc former dans son être intérieur, dans son cœur, dans son esprit. Penser, c'est l'art de combiner des idées, des réflexions, et ceci est en fait une faculté extraordinaire et merveilleuse. C'est un cadeau royal que Dieu nous a fait en nous accordant cette faculté de penser. Et Dieu l'a permise, cette faculté, chez nous pour que nos paroles, nos actes, nos écrits soient ordonnés, contrôlés. Et l'homme de surcroît est capable de matérialiser sa pensée. Si la pensée est une expression muette, intérieure, cachée, elle peut se matérialiser par la parole, par l'action, par l'écrit. Parce que Dieu parle, il a voulu que nous parlions aussi. Et c'est ainsi qu'encore son image est reproduite en nous. La pensée, nous pourrions la comparer à, plutôt le phénomène de la pensée chez l'homme, nous pourrions le comparer à une pellicule intérieure sur laquelle viennent se fixer en grand nombre des idées, des réflexions, toutes sortes de choses. Et la pensée peut être à la parole ce que la pellicule est à l'image. Assistée de l'imagination, la pensée peut devenir une vue intérieure, cachée. Et notre cœur n'est jamais vide. Nous sommes constamment à penser à quelque chose. Parfois, on nous pose la question, quand nous avons l'air dans le vague, « À quoi pensez-vous ?» ou « À quoi penses-tu » Nous répondons « À rien ». Eh bien, en réalité, ça n'est pas du tout prouvé. Nous sommes constamment à penser à quelque chose. Nos cœurs, nos esprits ne sont jamais vides. Et notre vie intérieure ne cesse de s'alimenter de nos pensées. Et nos pensées, nos idées, nos réflexions à l'intérieur de nos cœurs, de nos esprits, ressemblent souvent aux protons et aux neutrons de la particule atomique qui s'entrechoquent et qu'il est difficile souvent d'y mettre bon ordre, n'est-il pas vrai? Et parce que cet univers de nos pensées est un univers caché, il se fait que nous ne soyons pas portés naturellement à le discipliner. C'est un univers caché, difficilement pénétrable à ceux qui nous entourent, mais combien pénétrable au regard de Dieu. Savez-vous que c'est à partir de là que Dieu nous connaît et qu'il nous juge? C'est à partir du monde de nos pensées que Dieu nous connaît. Nous ne pouvons pas lui cacher cet univers. Si tant est que nous pouvons le cacher à ceux qui nous entourent, nous ne pouvons pas le lui cacher. La Bible dit que les regards de l'homme sont arrêtés aux surfaces et aux formes des choses, tandis que ceux de l'Éternel nous pénètrent. Et il est un texte qui m'a souvent frappé dans la Bible et qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 7. L'homme, dit ce texte, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Nous nous dirions, l'homme est tel que sont ses paroles, ses actes ou ses écrits. Dieu dit non, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est donc à ce niveau-là que Dieu commence par nous connaître et qu'il nous juge. La Bible ajoute que c'est à ce niveau aussi que nous avons commencé d'être rebelles. Nous étions, dit l'apôtre Paul en Colossiens 1, 21, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées d'abord, puis par nos mauvaises œuvres. Et en Éphésiens 2, 3, le même apôtre de poursuivre dans cette idée, nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. L'homme est aujourd'hui pécheur devant Dieu au niveau de ses pensées. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Son regard pénètre nos cœurs, et c'est dans nos cœurs qu'il nous connaît. Et Proverbe 15, 26 d'ajouter, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » Or, qui peut dire ici, dans ce lieu, ce soir, qu'il n'a jamais eu de pensées mauvaises? Qui peut dire qu'il n'a jamais eu de pensée d'orgueil, de pensée de jalousie, d'envie, que sais-je encore? Autant de pensées qui corrompent, souillent, flétrissent notre vie intérieure, nos cœurs, notre conscience, notre esprit. Et c'est parce que l'homme, précisément, est pécheur au niveau de ses pensées, qu'il est angoissé. La Bible le dit, mais nos savants aujourd'hui le disent également. Le docteur Médère, par exemple, un Suisse, pour vous honorer, un Suisse a dit « L'angoisse, c'est l'homme malade au niveau de sa conscience. Sa conscience. Sa conscience salie par des pensées mauvaises, par des actes aussi qui ne sont pas bons. L'homme est donc malade au-dedans de lui, au niveau de ses pensées, au niveau de sa conscience. Et c'est ce qui fait qu'il est angoissé. Une statistique dernièrement nous faisait savoir qu'aujourd'hui sur notre terre, 7 personnes sur 10 souffrent d'angoisse. C'est énorme. Je ne sais pas si 7 Suisses sur 10 souffrent d'angoisse. Mais enfin, à considérer notre monde avec tout ce qu'il renferme comme hommes et femmes, 7 personnes sur 10 souffrent d'angoisse. Et un autre grand médecin, un psychologue, d'affirmer récemment, de plus en plus, l'homme se prend en horreur. Et si l'homme se prend en horreur, c'est justement parce qu'il a en lui-même une corruption due à ses mauvaises pensées qu'il n'arrive pas à maîtriser, à ses actes aussi, bien sûr, mais d'abord à ses pensées qui font que intérieurement, il se sent sale. Il se sent même dégoûtant, selon sa propre expression. Voilà qui fait que nous sommes souvent angoissés, des pensées mauvaises qui nous souillent, nous pourrissent même intérieurement. Et Dieu n'attend pas que le péché soit consommé pour l'appeler péché. Nous nous souvenons de la parole de Jésus en Matthieu 5, 28, quand il a dit « Quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. » Au niveau de ses pensées, il y a là tout un monde intérieur que Dieu peut déjà condamner avant qu'il ne s'exprime par la parole ou par les actes. Oui, Dieu n'attend pas que le péché soit consommé pour l'appeler péché. Il suffit de penser le péché dans nos cœurs, dans notre esprit, pour que nous ayons effectivement péché devant lui. Et ce faisant, nous pouvons dire que le Christ est aussi mort sur la croix pour nos pensées mauvaises. Nos pensées mauvaises l'ont crucifié, l'ont déchiré, l'ont meurtri. Il est un texte aussi dans l'Ancien Testament qui rejoint celui que nous venons de citer, nous venant du Christ, en Proverbe 16:30. Le sage nous dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » C'était aussi vrai pour l'Ancienne Alliance. Oui, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, et au verset 15, d'affirmer « Quiconque est son frère est déjà meurtrier. » Imaginez. Nous sommes une race de meurtriers sur cette terre. Qui peut dire qu'il n'a jamais conçu la haine dans son cœur? De façon cachée, personne ne s'en est aperçu, mais lui le sait. Qui ne n'a jamais conçu la haine? Il est déjà meurtrier aux yeux de Dieu. Et quand on pense que Dieu nous connaît jusque dans nos profondeurs, jusque dans nos fibres les plus fondamentales, quand on pense qu'il nous connaît jusque-là, lui qui connaît le secret des cœurs, pourquoi vouloir jouer à cache-cache avec lui? Dieu veut que nous jouions franc-jeu avec lui. Et il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Ce qu'il veut, ce n'est pas notre mort. Et si j'ai cité tous ces textes, ce n'est pas pour vous poussez au désespoir pour que vous broyiez du noir. J'ai cité ces textes parce que Dieu veut vous tirer de là, comme il m'a tiré de là, comme il me tire toujours de là, parce que des pensées mauvaises, tout chrétien que nous soyons, qui n'en a plus ? Savez-vous qu'il m'arrive, après 25, 26 ans maintenant de conversion, d'avoir ces pensées, mais qui me font dire, comment peut-il se faire qu'après tant d'années de christianisme, de marche avec le Seigneur, tu puisses encore penser ce que tu penses en ce moment? Que de fois, nous chrétiens de longue date ou de courte date, n'avons-nous pas rougi de nos pensées? Mais quel bonheur de pouvoir en appeler toujours au sang de Christ qui purifie nos consciences de ces pensées, nos cœurs de ces mauvaises pensées. Le sang du Christ nous purifie de tout péché, dit la Bible. Oui, l'Éternel nous connaît. Le Christ connaissait la pensée de ses disciples. Ceci est souvent dit et redit dans l'Écriture. Et il est plusieurs versets qui nous le rappellent, par exemple Matthieu 9, 4, Luc 5, 22, 6, 8, etc., 11, 17, Jésus connaissant leurs pensées, ou encore Jésus disant à la foule ou à ses disciples, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ?» Le Christ donc nous connaît, lui aussi, au niveau de nos pensées. Et parce qu'il nous connaît comme Dieu, à ce niveau-là, ceci affirme qu'il est Dieu. Ceci affirme sa divinité. Dieu veut tout simplement que nous reconnaissions ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne veut pas que nous jouions les hypocrites. Nous vivons de plus en plus dans un monde de façade. N'est-il pas vrai? Dans un monde d'hypocrisie, où chacun veut paraître ce qu'il n'est pas en réalité au-dedans de lui-même. Ceci me fait penser à un humoriste contemporain du nom de Pierre Daninos, que j'ai eu du plaisir à lire dernièrement, lequel, dans un ouvrage, le 36e dessous, a dit ce qui suit, combien je l'ai apprécié. Avant de sortir de chez moi, et pour ne pas livrer au monde ce que je suis, je mets un masque. Ainsi, pour certains, c'est tous les jours carnaval. N'est-il pas vrai? Et toujours Daninos de poursuivre, j'essaie toujours avant de sortir et sur ma façade, j'essaie un rictus sur mon faciès cartonné, comme si on l'avait plongé dans un bain d'amidon. Imaginez un peu le cirque, mes amis. Mais voilà au moins quelqu'un qui a la franchise d'écrire et de dire hautement et publiquement ce que beaucoup éprouvent et pensent tout bas. Oui, Pierre Daninos, de parler de son masque. Ainsi, vous en avez qui, au sortir de chez eux, prennent leur parapluie, d'autres leur chapeau, comme c'est mon cas, à cause de mon crâne chauve, de plus en plus. D'autres encore de prendre leur manteau, leur... Et vous en avez qui prennent leur masque. Jésus, s'adressant aux pharisiens, leur a dit, « Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de vermine et de rapines. » Et il a été jusqu'à les traiter de sépulcres blanchis. Eh bien... Comment sortir précisément de ce genre de choses? Comment avoir d'autres pensées que celles qui nous assaillent constamment? Et surtout, comment garder des pensées pures, des pensées propres, des pensées agréables à Dieu? Parce que Dieu veut que tout chrétien se garde intérieurement propre. Eh bien, tout d'abord, par ce texte entendu tout à l'heure par le pasteur Lemrich, texte se situant au 4e chapitre du livre des Hébreux, au verset 12, « La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » En d'autres termes, pour avoir des pensées pures comme Dieu les veut, et pour ne pas souffrir intérieurement de ces pensées qui peuvent ressembler à des ronces, des orties, des épines qui nous égratignent, nous écorchent, nous blessent. Pour sortir de là, il faut mettre ses pensées sous un éclairage biblique. Il faut absolument laisser la parole de Dieu nous juger jusque dans nos profondeurs. Il faut que nos pensées passent au crible des enseignements de Dieu. Et c'est alors que, irrésistiblement, nous sommes orientés vers la croix. Vers la croix où le Christ a porté précisément ces pensées corrompues qui nous assaillent constamment et qui nous font pécher. Irrésistiblement, cette parole de Dieu nous oriente vers Christ, vers la croix, vers le sang du Christ. Et c'est ainsi que le sang du Christ nous purifie intérieurement de tout péché, qu'il nous nettoie, nous lave, nous rend des cœurs propres, des consciences nettes, claires, limpides, comme le cristal. Vous avez peut-être chez vous du cristal. Comme le cristal est pur, le Christ est capable de nous rendre des cœurs aussi purs que cela, des consciences aussi nettes, aussi limpides, oui, que le cristal. En d'autres termes, le sang du Christ nous décrasse, et le mot n'est pas exagéré, il n'est pas fort. Il nous décrasse de cette crasse du péché, de la corruption, de la révolte, de l'adultère, du mensonge. Nous vivons plus que jamais le siècle du mensonge. Il nous semble que jamais comme aujourd'hui, nous n'avons vécu de cette façon-là. Le mensonge est partout, partout, partout. Au point que nous sommes obligés de compter constamment avec le mensonge des autres. Quel dommage que nous ne comptions pas avec le nôtre. Parce que la Bible dit que nous sommes tous menteurs. Et que nous avons besoin d'autres cœurs, d'autres esprits, pour cesser de mentir, pour marcher dans le vrai, dans la vérité. Le Christ a dit « Je suis la vérité ». Quelle bénédiction de savoir qu'aujourd'hui le Christ peut nous délivrer de nos mensonges pour nous faire passer à la vérité. Et quelle chance aujourd'hui pour le pécheur, pour ces pécheurs que nous sommes, quelle chance que le Christ soit vivant, toujours vivant pour le sauver, l'approcher, le purifier de son péché. Donc tout d'abord, pour avoir des consciences nettes, pour avoir des pensées pures et belles, propres, saines, comme Dieu les veut, il nous faut les placer sous un éclairage biblique. Certainement que pendant un certain temps, il nous sera difficile de le supporter, mais il le faut absolument. Puis ensuite, la joie suivra. Parce qu'en réalité, la vraie joie est celle qui vient du pardon de nos péchés. Le psalmiste David, au psaume 32, s'écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné. » Je me souviens, il y a 26 ans de cela, sur un terrain de volley-ball, le Seigneur a pardonné mes péchés. Il était là, sur ce terrain de sport. Il faut dire que j'étais un fervent du volley. Parallèlement à mes études, j'en faisais beaucoup. Et ce faisant, j'avais même été sélectionné junior dans l'équipe de France de volley-ball. Je n'en ai pas l'air. Il me reste les paroles, je peux l'affirmer. Et c'est sur ce terrain que le Christ est venu me rencontrer. Et quand je m'adresse aux jeunes, j'ai coutume de leur dire, puisqu'il était là, sur ce terrain, c'est la preuve qu'il s'y connaît en sport. Hein. Il était donc là, pour me rencontrer. Et je me souviens lui avoir dit, après m'être placé devant lui, et devant ses paroles, « Seigneur, tu me connais. » Et je te demande pardon pour mes péchés, pour mes pensées, pour mes actes, pour tout ce que j'ai pu faire et qui t'a crucifié, meurtri, blessé, pour tout ce qui t'a, chez moi, tué. Pardon, Seigneur. Certes, Ce fut un moment difficile parce que mon orgueil en avait pris un sacré coup. Mais ensuite, quelle joie! Oui, quelle joie, des larmes de joie! Mais je m'étais senti, mais tellement léger après ce moment de repentance. Tellement léger dans mon cœur, tellement propre intérieurement. Ça fait du bien de se sentir propre dedans. Que ça fait du bien! Oui, c'est la raison pour laquelle David a chanté. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Il faut donc jouer franc jeu avec Dieu jusqu'au niveau de ses pensées. Parce que généralement, on nous rétorque quand on affirme ce que la Bible dit, nous sommes tous pécheurs, on nous rétorque, oui, mais écoutez, monsieur, je n'ai jamais tué. Vous n'avez jamais haï. Je n'ai jamais volé, encore que là, il y aurait à creuser quelque peu, hein, à fouiller quelque peu. Je n'ai jamais volé, mais n'avez-vous jamais eu l'intention de le faire? En second lieu, pour être propre dedans, pour glorifier le Christ, pour réjouir son cœur et pour réjouir nos cœurs, il nous faut absolument nous confier au Christ constamment. Nous en remettre à lui pour toutes choses et tout lui dire. C'est à cela que nous invite l'apôtre Paul en Philippiens 4, 5 et 7. Ne vous inquiétez de rien, dit-il. Mais en toute occasion, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce, des supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En d'autres termes, si nous voulons nos cœurs et nos pensées garder en Christ et dans sa paix, il nous faut savoir nous déverser. Nous décharger constamment sur Christ de ce qui est dans notre cœur. Si c'est mauvais, le lui confesser pour l'abandonner. Si c'est bon, pour le louer, l'en remercier. Mais constamment lui ouvrir notre cœur. En troisième lieu, il nous faut savoir que toute pensée qui s'éloigne du Christ, qui se détourne de lui, se corrompt automatiquement. À la lumière de 2 Corinthiens 11, 3, où l'apôtre Paul, toujours, dit ce qui suit, « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ. » Il suffit à une pensée de s'éloigner de Dieu pour se corrompre. Voilà pourquoi nous avons constamment à penser avec Dieu, à penser avec Christ. Et voilà aussi pourquoi ce commandement qui nous dit, qui nous vient de Jésus, et qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, lorsque j'étais étudiant à Nogent-sur-Marne, pour me former au ministère, il y a maintenant une vingtaine d'années, j'étais fiancé à l'époque, avec Jeanne, celle qui est aujourd'hui ma femme, que j'ai laissée à Paris. Ma femme était à Issy-les-Moulineaux, banlieue sud de Paris, j'étais à Nogent. Je l'aimais, ma fiancée. Je l'aimais au point que mes pensées étaient toutes occupées d'elle. Oui, toute préoccupée d'elle. C'est cela ce que veut dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée ». C'est l'aimer au point que nos pensées soient toutes occupées de lui. C'est ne rien faire sans compter avec lui. Au niveau, par exemple, du choix d'une profession, du conjoint en vue d'un mariage éventuel, mais à tous les niveaux, dans toutes nos décisions, compter avec le Christ parce qu'on l'aime, il faut qu'il soit dans nos pensées Paul voudrait que nos pensées deviennent captives du Christ, prisonnières du Christ. En est-il ainsi, mes amis? Est-ce que réellement le Christ règne sur nos pensées? Est-ce qu'il est Seigneur de nos pensées? Seigneur sur nos pensées? Ah, que de fois des pensées nous arrivent, incontrôlables, irrésistibles, prouvant tout simplement nous n'aimons pas encore le Seigneur comme il le faudrait. Eh bien, nous pourrions le lui demander ce soir. « Ô Seigneur, aie pitié de moi, et mets dans mon cœur un amour pour toi, au point que mes pensées soient toutes occupées de ta personne. Oui, de ta personne, de ta présence. Seigneur, donne-moi de t'aimer comme me le demande ton commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. » Et pour finir, notre âme, Dieu la voudrait pour lui comme un jardin. Un jardin fermé, bien sûr, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans le livre des Cantiques. Un jardin qu'il entretient lui-même, par sa parole. Un jardin où il aime entrer, se trouver, pour précisément y cueillir ses pensées qui lui sont agréables. Leur âme, dit le prophète Jérémie en Jérémie 31:12, leur âme sera comme un jardin arrosé. Dieu voudrait que nos âmes soient comme un jardin, le sien, arrosé de son esprit, planté des semences de sa parole. Il voudrait ce jardin agréable à son cœur. Il voudrait s'y promener tous les jours, y humer nos pensées, ses fleurs, que lui-même aura semées dans sa grâce. Mais dites-moi, nos jardins, nos cœurs plutôt, nos âmes, sont-ils ces jardins qu'il voudrait, ces jardins de fleurs, ces parterres de fleurs, ou bien nos âmes sont-elles encore ce soir des parterres de ronces, des parterres d'orties, d'épines? Je crois que chacun ici peut comprendre ce langage. Quand Dieu ce soir regarde dans notre cœur, que voit-il? Est-ce que nos cœurs le réjouissent? Est-ce qu'il trouve sa joie à nous sonder? Ou bien l'irritons-nous par des pensées mauvaises, par notre péché intérieur, notre péché caché, comme s'il ne le voyait pas? Ce soir, nous pourrions venir à lui pour lui dire, Seigneur, pardon pour ce qui est en moi. Pardon pour ce parterre d'orties, d'épines et de ronces que je te présente. Ô Seigneur, change ce jardin en moi, cet état de choses. Change-le et transforme ce parterre d'épines de ronces en jardin. Qui te soit agréable. Et c'est alors que le Seigneur ordonnera son esprit de souffler. Et quand l'esprit souffle, il prend aux fleurs de son jardin leur parfum pour les porter jusqu'à lui. Où en sommes-nous ce soir? Tout chrétien que nous soyons, peut-être y a-t-il très profondément caché en nous une racine d'amertume, une ronce, une racine de jalousie, une ortie. Que sais-je encore? Quelque chose que Dieu voit, que les autres ne voient pas. Quelque chose qui nous ronge intérieurement, nous fait perdre notre joie, notre paix dans le Seigneur.
nous pourrions mettre cette affaire en ordre avec le Christ ce soir, toujours prêt à guérir, à pardonner. Laissez-le donc ôter cette ronce, cette ortie. Ça peut faire mal, mais il le faut, et la joie s'en suivra. La joie dans votre cœur, et puis la joie dans le sien. Oh, puissions-nous ce soir, tous autant que nous sommes dans ce lieu, présenter au Christ nos cœurs comme un jardin fermé où il trouve tout son plaisir. Nous resterons sur cette pensée avant de parler demain soir de cet autre univers, de la langue, traduisant directement l'univers de nos pensées. Que Dieu donc nous bénisse et continue de nous parler à cet égard, au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Père, nous te sommes reconnaissants ce soir de nous avoir mis en face de ton regard de flamme qui nous pénètre, qui nous sonde, qui nous connaît. Nous savons que nous ne pouvons rien te cacher, nous soyons chrétiens ou pas. Et tu veux que ce soir nous jouions avec toi franc jeu, en te disant ce qui est en nous, en te le confessant, en te l'avouant. Seigneur, pardon pour toutes ces pensées qui, en nous, t'ont crucifié un jour. Toutes ces pensées qui t'attristent, toutes ces pensées rebelles que nous n'arrivons pas à maîtriser, à contrôler. Seigneur, sois ce soir, deviens ce soir Seigneur sur nos pensées, règne sur elles, pour qu'enfin nous puissions te présenter, comme tu nous l'as dit ce soir, ce jardin fermé, ce parterre de fleurs qui t'honore, te glorifie et réjouit ton cœur. Tu veux qu'intérieurement nous nous tenions propres. Tu veux qu'intérieurement, Seigneur, nous soyons saints comme tu l'es. Merci parce que tu es écrasant de beauté et de sainteté. Et tu veux que nous ayons en nous quelque chose de cette beauté qui est chez toi, qui est en toi. Quelque chose de cette sainteté. Tu nous dis, soyez saints car je suis saint. Oh, merci pour la croix qui a été plantée en Golgotha il y a 2000 ans et sur laquelle le Christ a porté notre péché pour nous en délivrer, pour nous en purifier. Et merci parce que si ce soir nous pouvons nous sentir noirs au-dedans, nous pouvons te faire confiance parce que ton sang nous purifie de tout péché. Et tu peux nous rendre ce soir des cœurs propres, purifiés, blancs comme la neige. Seigneur, accomplis-le, nous te le demandons. Et habite-nous pleinement parce que, en nous confiant en toi, nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit. Et tu veux que nous gardions saints ce temple que nous sommes, que tu veux habiter dans ta sainteté par ton esprit. Loué sois-tu, Seigneur, et béni sois-tu de ce qu'encore ce soir, tu nous appelles à toi, peut-être pour nous sauver s'il le fallait, ou encore pour nous purifier de tout péché par ton sang. Au nom de Jésus. Amen.